Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Je suis Yves et pour l'interview sur Erdiwa, aujourd'hui je suis présent au sein de la brasserie Après l'orage, située à Die. Et autour de moi, donc, nous avons Nina, bonjour.
Bonjour.
Maxime.
Bonjour.
Et puis Martin aussi, qui est affairé à la cuisson. Et donc, il viendra dès qu'il pourra. Et donc, nous parlons de cette brasserie établie dans ce secteur de la zone d'activité. Cela fait combien de temps que vous vous êtes agrandi ?
Alors, on est arrivé sur ce bâtiment, qui est un bâtiment communal, en juin 2021, précisément. Et avant, on était dans ma cave à Marignac-en-Diois. Et donc la brasserie existe officiellement depuis octobre 2020, mais le projet on l'avait commencé 2018-2019, donc, et on s'était établi dans ma cave, voilà. Et l'agrandissement s'est fait en juin 2021.
Et puis donc Martin, donc, bonjour.
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 Tous deux, vous êtes initiateurs de cette brasserie, voilà 3 ans.
Ouais, c'est ça, ça fait 3 ans exactement qu'on a lancé l'activité.
C'était quel désir pour vous de proposer après l'orage ?
Disons qu'on s'est retrouvés à l'approche de nos 40 ans avec Max, à un tournant de notre vie qui arrivait au même moment. Donc voilà, c'était le moment de rêver puis de créer quelque chose et on s'est lancé dans l'aventure.
Et puis Nina est arrivée ensuite l'année dernière, c'est ça ?
C'est ça, au mois de novembre l'année dernière. Les brasseurs m'ont proposé de les rejoindre. J'ai démarré déjà quelques mois avant, venir les aider sur la partie de l'embouteillage pour voir un peu si on s'entendait bien déjà pour travailler ensemble. J'ai fait 2 semaines de stage au mois d'août qui a confirmé que j'avais envie de participer à l'aventure.
Qu'est-ce que vous aviez envie de créer ? Qu'est-ce que vous avez eu envie de créer en proposant Après l'orage ? D'abord ce titre aussi, pourquoi ce titre ?
Après l'orage, on s'était fixé une sorte de cahier des charges dans la trouvaille du nom et on voulait quelque chose de poétique et en lien avec la nature et quelque chose, un message porteur d'espoir. Donc voilà, on peut faire le parallèle avec le dicton populaire « Après la pluie vient le beau temps ». Voilà, après l'orage, on espère, après une crise, qu'il y aura un meilleur. Et donc l'autre question qui était... sur notre projet, nous, quand on a pensé le projet après l'orage, d'entrée de jeu, on était sur plusieurs axes. Il y avait une bière bio. Donc tout de suite, on était en bio. Ensuite, une bière locale, avec des matières premières locales. Et puis une bière, une brasserie écologique. Donc ça, on essaie de tendre vers ce chemin. On réemploie nos bouteilles, on recycle l'eau. Voilà, on essaie d'aller dans ce sens-là.
Vous tâchez d'être dans une certaine économie circulaire, en quelque sorte ?
Ben oui, exactement. On est là, ça fait un peu plus d'un an qu'on travaille avec la malterie ardéchoise qui nous fournit de l'orge qui vient de beaucoup de Drôme, d'Isère, de Bourgogne et pour un petit pourcentage de Normandie aussi, et qui est maltée en Ardèche. Sur les houblons, aujourd'hui, on est à 40% à peu près de nos houblons qui viennent du Diois, sur les 2 houblonnières de la vallée. Et puis on espère augmenter ce ratio au fil du temps. Et ensuite, pour la distribution, on est dans un périmètre de 150 km à peu près, pour distribuer toutes nos bières ou presque. On va un tout petit peu plus loin avec les épiceries qui font partie de la coopérative dont on dépend, le Grappe. Mais ça, il y a un transport mutualisé qui s'en occupe. Sinon, c'est nous qui effectuons toutes nos livraisons dans un périmètre assez court.
Et Nina, qu'est-ce que tu as amené au sein de Après l'orage ?
Je dirais un peu plus peut-être d'organisation sur les tableaux Excel, la planification de la production, l'analyse des ventes et des stocks. Comme on a lancé quand même 3 nouvelles bières cette année et que le stock n'est pas extensible, il fallait vraiment optimiser en fait la production de chacune des bières en fonction des ventes. Et puis Après, je suis ingénieure agronome et j'étais surtout dans les services qualité, développement qualité. Et je peux amener ma patte aussi là-dedans, dans les étapes de production.
Et d'ailleurs, ça consiste en quoi, cette expérience, cette compétence au sein de Après l'orage?
Eh ben, ça peut être détecter les zones, par exemple, potentielles de rétention qui pourraient, par exemple, faire en sorte que ça contamine la bière. Bon, franchement, quand je suis arrivée après l'orage, il y avait beaucoup de bonnes pratiques. Donc, c'était déjà très, très bien. Après, c'est plutôt de la connaissance dans les étapes de nettoyage aussi.
Il faut dire aussi qu'il y a eu un temps assez long pour que Nina appréhende un petit peu toute la prod. Et du coup, c'était pas un temps où elle avait forcément l'espace pour mettre en œuvre les compétences qu'elle avait déjà acquises auparavant, mais c'est plutôt sur l'avenir. Donc là, c'est pas précis, mais nul doute que ces compétences-là, elles pourront s'épanouir dans notre construction à venir, quoi.
Qu'est-ce qui vous a permis de penser à cette idée de brasserie? Vous aviez une expérience, l'un de vous deux, pour vous lancer?
Moi, je connaissais les brasseurs et brasseuses locales où j'allais un peu traîner mes guêtres et leur acheter de la bière pour une association, pour l'organisation de concerts. C'était un environnement qui me plaisait beaucoup. J'avais eu un besoin aussi d'apprendre un savoir-faire, d'être sur du manuel, une technique, un savoir-faire. Et du coup, quand j'ai souhaité un peu une réorientation professionnelle, je suis allé faire des stages dans une brasserie en Ardèche, brasserie des Docks. C'est un peu comme ça que j'ai mis le nez dedans. Et en parallèle, j'ai pensé, et avec Martin, on a construit le projet après l'orage.
Alors, un projet qui a commencé il y a 3 ans, vous étiez parti sur une production avec des cuves de 80 litres au départ. D'emblée, vous avez proposé un choix ou vous êtes parti qu'à partir d'une bière?
Alors au départ, on était tout de suite parti dans l'idée de fabriquer une bière blonde et puis une bière qui devait nous ressembler, c'était l'American Pale Ale, qui en termes de goût correspondait à des souvenirs très forts de bière vraiment appréciée. Et donc c'est avec ces deux-là qu'on a commencé la production. Et l'embray qui est venu un petit peu après, ouais, effectivement. Et comme tu le disais, Yves, on a commencé dans des cuves de 80 litres. Et puis peut-être on peut rappeler qu'au départ avec Max, on ne savait pas trop dans quoi on s'embarquait et qu'on s'imaginait en faire une petite activité, mais pas forcément à temps plein. Et en fait, on s'est rendu compte très vite que pour faire de la bonne bière, il fallait y passer beaucoup de temps, avoir du bon matériel. Donc ça allait coûter un peu d'argent et qu'il fallait s'investir à 200% dedans, quoi.
D'ailleurs, c'est plus facile pour maintenir une certaine saveur ou un goût à chaque type de bière, d'avoir une quantité plus grande, de manière à avoir une constance. Ou alors, parfois, quand vous faisiez des petites quantités, il était difficile, ou si vous aviez une recette pour reproduire exactement la même bière.
Non, après, une fois qu'on a la recette, alors on a passé beaucoup d'heures à élaborer nos recettes, à les modifier, à les améliorer. On brassait une fois semaine quand on était dans ma cave avec des cuves de 80 litres, jusqu'à obtenir une recette qui nous convenait, et puis après on les a fait goûter, ça a plu à notre entourage. Après, une fois qu'on a la recette, c'est le matériel qui va avoir un rôle important. Donc c'est vrai que au début, on avait un petit matériel et qui n'était pas très professionnel, surtout sur la gestion des températures. Donc en fait, là, nous, aujourd'hui, on a un matériel professionnel où on peut contrôler les températures. Donc ça nous permet une constance dans le goût. Donc c'est pas forcément la taille, on va dire, des cuves, mais c'est plutôt le côté professionnel de l'outil de travail. Si on a un groupe froid qui va pouvoir permettre de contrôler les températures de fermentation, c'est surtout là que ça se jouait. Au début, on n'avait pas ça, donc l'été, c'était compliqué d'avoir des bières claires. Ça venait un peu altérer le goût des bières et la constance. Ouais.
Très vite, donc, le succès de ces bières qui vous ont poussé donc à produire plus.
Bah, disons que oui, il y a eu une petite année avant les 3 ans d'activité où on a testé nos recettes. On a demandé des retours surtout à l'entourage proche. Et puis après, on est allé. La Carline a décidé de nous soutenir assez vite, parmi les premières personnes avec qui on a commencé à travailler, parce que le produit plaisait. Donc quand on a commencé, je crois qu'on avait encore les cuves de 80 litres. Ensuite, on s'est rendu compte au fil des mois qu'il y avait. Un enjeu fort quand même, c'était d'arriver à vivre de cette activité puisqu'on y passait tout notre temps. Donc c'est là qu'on est passé sur des cuves de 200 litres pour produire un peu plus et dans l'idée de tirer au moins un premier salaire. Donc ça, c'était encore chez Max. Et ensuite, petit à petit, on s'est tourné vers un outil avec des cuves de 1000 litres et une production de 1000 litres par semaine qui devait nous permettre d'arriver à vivre de l'activité, quoi.
Alors là, en ce moment, il y a cette odeur due à la cuisson. Ça me rappelle quand j'étais enfant à la brasserie Amos à Metz. Il y avait des grandes cuves. Elles faisaient 3-4 mètres de diamètre. C'était tout en cuivre. Et donc il y avait une espèce de pale qui brassait continuellement. Et puis il y avait cette fumée qui sortait aussi des cheminées et qui parfumait tout le quartier. Hein. Ça sentait vraiment la bière dans tout le quartier. C'est agréable aussi, cette odeur.
Bah ouais, personnellement, moi je trouve ça très très agréable. Tous les jeudis, on se retrouve dans cette ambiance. C'est super. Hein.
Et je dirais même qu'aujourd'hui, on a utilisé du houblon qui vient de Boulk. Et du coup, il est tout frais et il a une odeur merveilleuse.
Comment se constitue la bière? Il y a aussi donc le malt, le houblon. Il y a l'eau également. Cette eau, vous fournissez comment?
Là, on prend l'eau du réseau. Il y a pas de, on fait pas d'ajout dans l'eau. On prend celle du réseau. Après, c'est vrai qu'il y a une heure d'ébullition, ça vient tuer tout ce qui est bactéries. Et voilà, il y a aussi les levures dans les ingrédients. Levure qui est quand même une sorte de signature de la brasserie. Mais en tout cas, c'est l'eau du réseau.
Et cette levure, elle émane d'où, elle?
Bonne question. Elle vient d'un laboratoire qui s'appelle... C'est quoi le nom du labo déjà?
Le Safre, ce qui est une grande entreprise dans le nord de la France qui produit plein de levures pour multiples industries agroalimentaires.
Il y a un processus, est-ce qu'on peut en parler un peu de cette constitution, d'une production déterminée par exemple
pour fabriquer une bière?
Oui, à brassin.
Le brassin, c'est faire chauffer au préalable une certaine quantité d'eau, d'avoir concassé une certaine quantité de grains d'orge et un petit peu de blé, un tout petit pourcentage, mais principalement de l'orge. Il peut y avoir de l'avoine dans certaines bières. Et concasser parce qu'il faut ouvrir les grains pour qu'ils puissent libérer l'amidon qui va ensuite se transformer en sucre fermentissible. Et donc, cette orge, on va le faire tremper dans l'eau chaude. Et donc, ça va mijoter et la pâle dont tu parlais tout à l'heure va homogénéiser tout ça pendant un peu plus d'une heure. Et ensuite, on va récupérer que le jus. Les céréales, eux, ils vont aller en partie au cochon et puis en partie chez les maraîchers. Et l'eau, on la récupère et on la fait bouillir. Enfin l'eau, le jus de bière du coup, on l'a fait bouillir pendant plus d'une heure, c'est ce qui se passe actuellement, là. C'est pour ça que ça sent bon. Et pendant cette phase d'ébullition, on va rajouter les houblons, un peu au début, un peu à la fin, ça va rajouter de l'amertume au début, plutôt des arômes sur la fin. Et puis une fois que c'est terminé, on va pouvoir transférer ça dans une cuve de fermentation, on va la passer 3 semaines.
Et puis après, donc la fermentation, le processus avec le sucre.
Voilà, donc les levures vont transformer tous les sucres en alcool. Ça va faire pas mal de gaz dans le fermenteur. Donc le gaz va s'échapper, ce qui fait qu'à la fin des 3 semaines, la bière est complètement plate. En fait, elle n'a plus de bulles dans le fermenteur. Les levures ont arrêté de travailler, donc elles tombent au fond de la cuve. Et nous, on va récupérer au-dessus tout le jus, toute la bière très claire. Qu'on va repasser dans une cuve qui a été proprement désinfectée au préalable. Là, on va rajouter un petit sirop de sucre, c'est-à-dire qu'on rajoute un petit pourcentage de sucre. Nous, c'est du sucre de betterave qu'on mélange à de l'eau, qu'on fait bouillir. Et on le rajoute pour réactiver les dernières levures en suspens qui vont refaire une petite carbonatation dans la bouteille. Et là, comme c'est emprisonné par la capsule, ça refait la mousse, le gaz. Et au bout de 3 semaines en bouteille, c'est prêt. Voilà.
Et on peut peut-être parler aussi de ces machines. Donc, tu parlais donc de brassin.
Oui. Et bah, donc du coup, là, on a 6 cuves en tout, en inox, toutes font 1000 litres. On a 3 cuves là en face, en alignée. Donc il y a la cuve d'empattage au milieu, donc c'est là où on mélange l'eau et les céréales. La première cuve, c'est une réserve d'eau chaude qu'on va utiliser pour diluer le premier jus qui sinon serait trop fort en alcool. Et la troisième, là où ça boue actuellement, c'est la cuve d'ébullition. Et là, donc ça nous sert un jour par semaine, tous les jeudis quand on brasse. Donc tu as les petits boîtiers de commande pour maîtriser aussi les températures là. Et puis après, ça va, à la fin de l'ébullition, ça va passer à travers un échangeur thermique. Donc on fait passer de l'eau très froide d'un côté, et la bière croise l'eau très froide. Elle ne se touche pas, il y a des parois au milieu, mais ça permet de refroidir instantanément la bière et de passer de 90 degrés, enfin 100 degrés même, à 20 degrés pour aller dans le fermenteur. Et quand la cuve de fermentation est pleine, pendant le transfert, on rajoute les levures au même moment. Et puis après, on ferme tout. On a un barboteur là, le petit truc en plastique qui est un tampon d'eau pour permettre au gaz de sortir mais pas à l'air de rentrer pour pas infecter la bière. Et puis là on laisse tranquille pendant 3 semaines. Ça fermente, ça barbote, ça fait des bulles pendant 2-3 jours, puis après ça se calme. À la fin on descend en température pour faire tomber toutes les matières en suspens, c'est une filtration par le froid. Et au bout de 3 semaines on va pouvoir mettre en bouteille.
Il y a aussi différentes bières hein, que vous proposez. Toutes prennent un temps pour les créer. Est-ce que vous avez une expérience qui vous permette d'ajuster assez rapidement de nouvelles propositions ?
Cette année, par exemple, on a lancé 3 nouvelles bières, la bière triple, la blanche et la Red IPA, qui est une ambrée amère. Et en fait, on s'est réunis plutôt pour penser au style de bière, au goût, à la couleur. Et on a travaillé tous ensemble la recette en fonction des critères qu'on voulait retrouver. Voilà.
Et là, juste j'interromps, mais il y a Émilie derrière toi, Émilie Douel, qui fait les cochons du Diwa, qui vient chercher la drèche qu'on vient de mettre dans le bac là. Donc la drèche, c'est le résidu de l'orge qu'on s'est servi pour la phase d'empattage. Et donc là, elle les récupère pour nourrir ses cochons.
Il y a aussi donc cette fermentation et puis cette réfrigération, en quelque sorte, pour sa maturation. Tu m'as présenté ces chambres froides avec une température ambiante de 20 à 25 degrés, c'est ça ?
Alors oui, il y avait deux espaces. On a une chambre, nous on l'appelle la chambre chaude. C'est lorsqu'on fait la phase de resucrage et qu'on met dans des contenants, que ce soit bouteille ou fût, le sucre qu'on rajoute réactive les levures. Et elle, pour qu'elle travaille bien, parce qu'on est à... il faut qu'elle soit entre 20 et 25 degrés. Donc on maintient le caisson, là, cette pièce, à cette température-là, ça va réveiller les levures qui dormaient, et elle va recréer du coup une petite fermentation bouteille qui est là, qui va donner les bulles. Et une fois que ça s'est terminé, on a une sorte de chambre froide, mais là c'est plus pour de la garde et puis pour maintenir les bières prêtes à la vente, et les fûts surtout. Les fûts, c'est important qu'ils restent au frais, pour pas qu'il y ait que ça mousse dans la tireuse ou dans les verres. Voilà. Et il y a aussi une étape de froid, mais dans le fermenteur. Là, c'est vraiment pour sédimenter la levure, faire tomber la levure au fond du fermenteur et clarifier la bière. Il y a aussi donc cette étape de froid.
Alors, après, il y a la mise en fût. Ça permet de pouvoir alimenter des soirées, des événements.
Oui. Oui, là, depuis... un an, on fait du fût en plus des bouteilles. Et en effet, on a tout type de demandes. Il y a donc une petite partie des bars. Donc on travaille beaucoup qu'avec les locaux. Hein. Donc les bars, et après il y a des soirées privées comme des mariages, des anniversaires. Il peut y avoir des petits festivals. On n'a pas une grande quantité de fûts, mais voilà, on travaille avec les professionnels comme les particuliers sur le fût, et on met à disposition une tireuse lorsqu'on nous prend des fûts.
Et puis l'autre aspect, c'est celle de la mise en bouteille. Alors la mise en bouteille, vous dites que vous faites de l'économie circulaire. Vous consignez vos bouteilles d'ailleurs pour pouvoir les réutiliser ?
Oui, alors c'est pas une consigne payante. C'est plus qu'on communique à tous les gens qui nous achètent des bouteilles, le fait qu'ils peuvent les ramener si ça leur demande pas trop d'efforts et s'ils y voient un intérêt. Donc nous, on a mis en place, on travaille avec Ma Bouteille S'appelle Revient, qui est une entreprise qui relave les bouteilles à Chabeuil. Et là, on a mis en place un petit espace ici à la brasserie qui est, tu vois, juste derrière, il y a un petit appentis pour protéger les palox qu'on remplit avec les bouteilles. qu'on nous ramène. Il faut que ce soit à l'abri du soleil et de la pluie pour que les étiquettes qui sont collées avec de la colle hydrosoluble puissent quand même se décoller très facilement lorsqu'elles sont relavées. Et donc, dès que c'est plein, on appelle ma bouteille, s'appelle Revient, qui vient les récupérer, qui nous ramène les bouteilles lavées la fois d'avant. Et puis des palox vides pour à nouveau continuer de récupérer des bouteilles. Et donc ça, nous, on le fait en direct à la brasserie. Et puis il y a de plus en plus de magasins aussi qui jouent le jeu. La Carline notamment, Super U va peut-être tenter le coup aussi. Pas mal d'épiceries bio qui le font. Voilà, ça commence à se savoir.
Et donc sur un rayon de 150 km
150 à peu près. On va sur tout le Vercors jusqu'à Grenoble. On va dans le nord de la Drôme, sud de la Drôme, un petit peu en Ardèche. Ouais, je dirais ça, 150 km à peu près.
Et donc là, il existe une entreprise de transport qui se charge de la distribution de ces productions au loin ou... Non, vous vous chargez vous-même?
Ce que j'expliquais, c'est qu'on fait partie d'une coopérative qui a un réseau de beaucoup d'épiceries, qu'on distribue nos bières dans certaines de ces épiceries. Pour ce volume-là de bouteilles, il y a un transport mutualisé qui passe tous les 15 jours dans la Drôme. Ça représente un petit volume par rapport à nos ventes. Tout le reste, c'est nous qui l'effectuons. Chaque semaine, on a des tournées en fait, par secteur et on achemine toutes nos bières, nous-mêmes, avec notre camion.
J'ai entendu Biclou, Bicoli. Vous travaillez avec lui aussi pour certaines livraisons?
C'est bien que tu en parles parce que donc on a travaillé avec lui au mois d'avril quand il a fait son mois d'essai où il proposait le service à prix libre à tous les commerçants ou entreprises du Diois pour faire des livraisons. Après j'ai compris qu'il avait, enfin on a compris qu'il avait d'autres axes, c'était de transporter les déchets à la déchetterie, les cartons. Donc ça aussi, on a utilisé son service pour ça. Et là, on le rencontre ce lundi. Il a un petit peu plus posé sa tarification, son projet. Enfin voilà, ça avance bien de son côté apparemment. Et on le rencontre ce lundi pour en parler.
D'ailleurs, lui avait cette idée aussi du dernier kilomètre. C'est-à-dire de proposer donc un dépôt des transporteurs à un lieu précis en périphérie du centre-ville et que lui se charge ensuite de dispatcher le dernier kilomètre de livraison pour désencombrer les rues de la ville.
Oui, c'est ça. C'est le troisième axe. En fait, il y avait du coup des livraisons à domicile ou pour des professionnels. Le acheminer les déchets à déchetterie, le troisième, c'était le dernier kilomètre. Pour ça, par contre, il lui faut un local. Et je crois qu'il est dans la recherche d'un local pour pouvoir stocker les colis, accueillir les camions qui arriveraient autour de 10 pour après finir la livraison. Mais donc, on espère qu'il va trouver rapidement et qu'il va pouvoir aboutir ce projet, oui.
Autour de ces bouteilles, il existe une étiquette créée par un graphiste ou vous-même?
Alors oui, non, c'est un ami qui est designer, Bertrand Vignolous, qui est designer sur Pré pour la boîte. Il a créé la société entre autres, et c'est un ami de collège. Et il a toujours un bon coup de crayon. Et lorsque on a eu l'idée un petit peu très de manière très grossière de notre logo, il nous l'a posé sur papier, sur ordinateur. Et voilà, en plus, c'est le cadeau de mes 40 ans. c'était de nous créer notre logo. Et il a très bien réussi sa mission. Et on le remercie énormément.
La production chez vous a-t-elle été impactée aussi par la crise énergétique et le surcoût de cette énergie?
Oui, effectivement, au niveau électrique déjà, parce qu'on est plutôt, enfin, on fonctionne à l'électricité pour chauffer les résistances des cuves, tout ça. Et après, sur le coût de, ça a eu un gros impact sur le coût de la bouteille, ça a presque doublé. Voilà. Après, est-ce qu'il y a eu d'autres choses qui ont augmenté? Bah oui, les matières premières, le malt. Parce que là aussi, c'est des process où ils utilisent beaucoup d'électricité pour torréfier en fait l'orge, et donc ça a un impact sur le coût final. Les cartons, un peu.
Sinon, il y a le malt, l'orge, la levure. Est-ce que vous proposez aussi ou expérimentez ou tentez de créer d'autres saveurs ou d'apports de saveurs sur ce que vous proposez?
On est plutôt classique, nous, pour l'instant, en tout cas. Au départ, on était plutôt amateurs de bières assez légères, très aromatiques. Donc c'est comme ça qu'on a monté notre gamme. Ensuite, on a fait des bières un petit peu plus fortes, comme la triple, mais c'est la seule. Hein, sinon, on est toujours entre 4 et 6 degrés, même une bière qui est à 3,2 degrés. Et on expérimente plutôt des variétés de houblon. Et là, notamment, on avait démarré nos recettes avec beaucoup de variétés américaines qui venaient des États-Unis. Progressivement, comme notre idée, c'est d'arriver à être en 100% matière première locale, on va déjà devoir adapter nos recettes avec des variétés de houblon, certaines des variétés américaines, mais qui poussent ici, des variétés anglaises, etc. Donc il va déjà falloir trouver d'autres variétés et arriver à faire des bières qui ne sont pas trop différentes de ce qu'on avait l'habitude de faire. Donc c'est un gros enjeu pour nous, et vu qu'on a 9 bières, on a quand même du boulot. Et voilà, on verra après si on a d'autres idées. On est très ouvert, mais c'est déjà un gros défi d'arriver à ça.
Il y a des saisons pour chaque bière, ou alors vous les produisez indifféremment tout au long de l'année ?
Oui, enfin, il y a des saisons. Après, alors, il y a une saisonnalité dans la consommation de... Salut, Émilie.
Salut, Émilie.
Il y a une saisonnalité dans la consommation de bière. Donc, les gens boivent plus de bière l'été quand il fait chaud. Et après, dans le type de bière, on peut constater que des bières un peu plus corsées, comme une ambrée, se boivent un peu plus l'hiver que l'été. Après, il y a aussi un gros coup, c'est la bière de Noël, la bière de printemps, c'est des coups marketing, enfin, je pense, en tout cas. Voilà, mais c'est vrai que l'été, nous, on va vendre un peu plus de bières légères comme notre session IPA ou notre blanche. Et l'hiver, on va vendre un peu plus d'ambrée, de red IPA ou de stout, qui sont des bières où on met plus de malt torréfié, et donc qui ont plus de corps et de caramel, enfin voilà, qui sont un peu plus corsés. Donc là, ouais, là-dessus, on trouve qu'il y a une petite différence entre les saisons. Ouais.
Il y a un autre aspect plutôt fiscal, celui-ci, par rapport au taux d'alcool. Je crois qu'il y a une taxe en fonction du taux d'alcool dans ces bières. Est-ce que ça vous implique à respecter ces degrés précisément ?
Oui, c'est les taxes douanes. En fait, ils nous taxent, pour le monde brassicole en tout cas, c'est le nombre d'hectolitres vendus d'un type de bière, multiplié par son taux d'alcool, multiplié par, donc eux, ils ont 3,91 euros. Donc une bière à 9 degrés, les taxes seront assez fortes, contrairement à une bière à 3 degrés. Mais c'est vrai qu'il faut respecter, déjà pour le consommateur, le taux indiqué sur l'étiquette, et puis que nous, on pense faire pour déjà pas le tromper. Et puis derrière, si on a un contrôle des douanes, si en fait on met 3 degrés d'alcool sur notre étiquette et puis qu'elle en fait 5, eh ben il faudrait qu'on paye plus de taxes, donc ils peuvent nous tomber dessus, nous réclamer la différence. Donc c'est important d'être au plus juste sur les deux aspects, hein, pour les douanes et surtout pour le consommateur, pour pas le duper sur le produit.
Ce processus d'alcoolisation, comment se déroule-t-il et à quel moment vous pouvez intervenir pour le stopper ?
Et là, en fait, ça dépend de la quantité de malt qu'on va introduire dans la recette. Et on va mesurer aussi au cours de la fabrication la densité de la bière et ajuster en fonction pour atteindre cette densité visée. Voilà.
Là, vous en êtes à 1000 litres avec vos cuves. Est-ce que vous envisagez peut-être d'en avoir des plus grandes encore ?
Non, pas forcément. Notre enjeu pour nous, c'est d'arriver à vivre à 3 avec cet outil-là. C'est déjà beaucoup de travail, c'est beaucoup de défis. Et puis, on est dans un secteur qui n'a pas trop le vent en poupe en ce moment, notamment à cause de l'inflation. Et on a plutôt tendance à être prudent, en tout cas dans nos projections, arriver à bien maîtriser cet outil-là, peut-être à l'améliorer. Un exemple, acheter une capsuleuse pneumatique plutôt qu'une capsuleuse manuelle, acheter une laveuse de fûts plutôt que de laver tous nos fûts manuellement, comme on le fait encore aujourd'hui. Là, c'est plutôt ça qui nous occupe, en tout cas à l'esprit, que l'idée de croître.
Les capsules, c'est aussi un autre secteur, ça a l'air de rien, mais ça en a toute l'importance. Comment se fournit ce matériau qu'est la capsule ?
Eh bien, on se fournit auprès de la malterie du château. Et on est en train de voir pour changer peut-être du fournisseur, mais en fait tous ces revendeurs de capsules s'adressent, j'ai l'impression, aux mêmes fabricants, parce qu'on retrouve les mêmes références chez les uns les autres. Et donc nous, la particularité, c'est qu'on utilise des capsules de couleur qui vont bien avec nos étiquettes, et en rayon, bah, ça attire l'œil, et puis c'est plutôt joli.
Elles sont déjà proposées telles quelles ou alors c'est une commande de votre part d'avoir des capsules colorées en fonction des bières?
Oui, non, c'est un côté esthétique. Donc on commande, comme on a fait des déclinaisons de couleurs, on commande la capsule qui sera plus rapproche le plus de notre étiquette. Et il y a un aspect très pratique aussi, c'est quand on regarde notre carton d'en haut, on repère tout de suite la bouteille qu'il y a à l'intérieur du carton. Mais c'est vrai que sur les capsules ou sur les verres, en fait, on ne peut pas travailler en direct avec le fabricant. C'est des grosses usines et on travaille qu'avec des revendeurs qui en fait proposent le même produit. Et c'est là on les avait achetés à la malterie du château parce qu'historiquement on prenait un peu de malt chez eux. Donc, mais là on est en train, comme disait Nina, de changer de revendeur. Et pour la bouteille c'est la même chose, on achète des bouteilles Veralia qui est le fabricant de bouteilles, qui est le français, qui est le verrier, mais on peut pas leur acheter en direct. Donc il y a des intermédiaires qui revendent les bouteilles. Ouais.
Elles sont particulières par rapport à d'autres brasseries locales. Chaque brasserie tente d'avoir sa propre bouteille, sa propre forme. Est-ce que ce sont des propositions déjà existantes sur catalogue et que vous choisissez? Ou alors, bon, après, ça, c'est peut-être un autre niveau de les faire fabriquer selon vos désirs, mais ça, c'est hors de prix, j'imagine.
Oui, on choisit sur catalogue et puis nous, c'est vrai qu'il y a plusieurs colorations du verre. Voilà, après l'orage, on a plutôt choisi un verre ébène parce qu'on trouvait ça assez classe avec l'étiquette au niveau esthétique et puis au niveau conservation aussi, ça protège de la luminosité. Donc c'est mieux pour la conservation de la bière.
Également le packaging ou le pack. Hein, vous proposez différentes formules, les deux bouteilles, trois bouteilles, six bouteilles. Ça aussi, ce sont des catalogues qui vous proposent ce type d'emballage?
Oui, pareil. Là, il y a des boîtes qui se spécialisent dans les emballages, dans le carton. Et là, ben, en fait, c'était parce qu'on va commencer les marchés de Noël et on vient de recevoir des petits coffrets pour les 33 centilitres et les 75. Et on les essayait là. C'est pour ça qu'il y a la panoplie devant. Mais là, oui, c'est avec les fêtes de Noël pour booster un peu les ventes. Et pour revenir sur les bouteilles, en effet, il y a des catalogues de formes de bouteilles qui sont différentes et avec des coloris différents. Nous, on est parti sur des bouteilles très traditionnelles, enfin très utilisées dans le monde de la brasserie, mais parce que c'était une demande, si on voulait rentrer dans le cahier des charges de Ma Bouteille S'appelle Revient, ils demandent un peu une uniformisation des bouteilles pour que leur système fonctionne. Et nous, ça nous tenait vraiment à cœur de réemployer nos bouteilles. Donc on a pris en fait ce modèle très standard dans le monde de la brasserie.
L'objet promotionnel n'est pas encore pour vous? C'est-à-dire des verres imprimés à l'effigie après l'orage?
On aimerait bien, mais ça coûte cher. Ah.
Ça viendra certainement.
Oui, certainement. On a regardé, on a fait des demandes de prix et notamment le fournisseur de carton a aussi des propositions pour les verres imprimés. Et
ce sera... les éco-cups.
Voilà, on a les éco-cups.
Et d'ailleurs, vous produisez quelque chose d'exceptionnel pour les fêtes en général?
Ben non, on n'est pas sur des bières de Noël ou de printemps. Comme on a une saisonnalité un peu dans notre offre avec, comme le disait Max, une stout, on va mettre en avant la stout qu'on n'avait pas brassée cet été. Et là, on commence à la rebrasser. Donc, il y aura peut-être une petite soirée autour de la sortie de cette bière. La mettre en avant dans les magasins. Mais on ne fait pas de bière aux épices ou des choses comme ça. On reste assez traditionnel.
Nina, Maxime et Martin, je vous remercie tous trois d'avoir donné de votre temps hein, dans ce jour de... Comment on appelle ça, cette journée pour vous?
La journée du brassin.
La journée du brassin et dans son parfum. Donc, et je vous souhaite une bonne fin de journée.
Merci à toi. Merci d'être venu jusqu'ici.
Merci, ouais.
Merci.
Juste encore une dernière chose. Vous avez une visibilité sur Internet pour faire connaître votre production ou la commander?
Ouais, un site Internet. Oui. Site Internet, aprèslorage.fr. Et on a une page Facebook aussi, voilà, qu'on essaye d'alimenter un petit peu.
Et sur le site, il y a toute notre gamme avec le descriptif des bières. Si... Et puis, on reprend un peu le projet. On parle aussi un peu du grappe. On en a peu parlé, la société coopérative dans laquelle on est aussi. On a une activité intégrée. Donc voilà, on vous invite à aller regarder si vous êtes curieux. Et on remercie aussi, du coup, ta venue, parce qu'il y a trois ans, Baptiste était venu nous rencontrer dans ma cave à Marignac. Donc c'est sympa ce suivi, voilà, ce petit suivi de la brasserie.
C'était pour marquer un peu ce développement. Hein. Mmh. Voilà.
Bah, merci beaucoup.
Allez, bonne journée.
Bah, toi aussi. Merci.